Vous écoutez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Benoît Hamon, député de la 11e circonscription des Yvelines et candidat aux primaires présidentielles socialistes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à ce grand jury. Pour vous interroger pendant une heure, à mes côtés, Christophe Jacubicine de TF1 LCI et Alexis Brézé du Figaro. Bonjour, bonjour à tous les deux. Alors Benoît Hamon, on a entendu, hein, vous êtes candidat à la primaire de gauche et vous êtes allé aux États-Unis rencontrer Bernie Sanders, on va en parler, peut-être que vous êtes-vous inspiré de ses méthodes, sauf qu'il a perdu et vous espérez, vous, gagner la primaire de la gauche. Et pour cela, vous vous présentez comme le porte-parole, le porte-voix des invisibles et vous avez des propositions qui sont à l'encontre, hein, de ce que propose François Hollande par exemple et vous revenez sur des propositions comme la diminution du temps de travail, les 32 heures qu'on pensait disparues. Pour vous, c'est une proposition qu'il faut remettre sur le terrain. Est-ce que c'est une vieille ficelle ou est-ce que pour vous c'est une proposition d'avenir? On en parlera, puis bien sûr on parlera aussi politique puisque les primaires de la gauche sont organisées. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Eh bien, nous poserons toutes ces questions. Alors, vous le savez, le Grand Jury, c'est une émission interactive. Il y a le compte Twitter, hashtag le Grand Jury, pour toutes les questions que pourraient se poser les internautes, les téléspectateurs. Ils nous envoient ces questions. Puis, en fin d'émission, nous en relayerons quelques-unes. Alors, Benoît Hamon, je le disais tout à l'heure, vous êtes allé voir Bernie Sanders aux États-Unis. C'était il y a mercredi, hein, je crois, et le candidat malheureux face à Hillary Clinton. Est-ce que, en cas d'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ce serait un danger pour le monde? Est-ce que vous pensez cela?
Oui, en tout cas, de retour des États-Unis, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'une grande partie des Américains eux-mêmes considèrent que si Trump était élu, à la fois ce serait un danger pour eux-mêmes et pour la cohésion de leur pays, mais aussi un danger pour le reste du monde. D'abord, en raison de l'ignorance qui est celle de Donald Trump, de beaucoup des enjeux qui se posent aujourd'hui en termes de migration, en termes de prise en compte du péril climatique, en termes stratégiques.
Mais on a le sentiment... Mais vous pensez pas qu'on disait la même chose de Ronald Reagan quand il a été élu, puis finalement il s'est mis dans le moule de la géopolitique?
Oui, ça c'est la version optimiste qui peut dire on a survécu à Reagan, on a survécu à Bush, on pourra toujours survivre à Donald Trump. Et effectivement, il y aura toujours les États-Unis d'Amérique après Donald Trump. Donc ça, c'est sans doute vrai. La question c'est, est-ce qu'on peut se permettre ou s'offrir le luxe de Donald Trump dans un pays qui est aujourd'hui traversé par l'inquiétude, le racisme, les inégalités. Et la raison du succès de Bernie Sanders dans des primaires démocrates, qui est un succès qui a surpris tout le monde, y compris peut-être même les experts américains eux-mêmes, c'est la capacité qui a été la sienne de faire de la question sociale, des salaires, de la protection sociale, des inégalités de genre entre les femmes et les hommes, une question centrale.
Et
il a parlé de pauvreté, il a parlé de travail. Oui. Je crois qu'il a eu raison parce qu'il a touché à ce que vivent les Américains, comme le vivent aujourd'hui, je crois, les Français, les Européens.
Alexis, mais il y a malgré tout un paradoxe, c'est qu'en matière économique, Trump, il n'est pas libéral, il est même plutôt moins que Hillary Clinton. Il est plutôt protectionniste, il est contre le TAFTA, contre le grand marché, etc.
Oui, il est contre beaucoup de choses.
Oui, mais
c'est vrai. Mais il y a effectivement, c'est un grand mélange, Donald Trump, et il est très protectionniste. Il veut tout fermer. Il veut fermer les frontières aux marchandises comme aux hommes. Et en l'occurrence, aux hommes, il les sélectionne, aux musulmans. Et un peu peut-être aussi aux Français, puisqu'il a un petit sujet avec les Français. Donc on voit bien qu'il est dans une vision du monde qui est totalement dépassée.
C'est celle de Marine Le Pen, selon vous, la vision de Donald Trump ?
Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils s'aiment bien l'un et l'autre. La réalité, c'est que Marine Le Pen, elle, aujourd'hui, défend une conception, là aussi, de l'évolution de la nation, qui se fonde sur le repli sur ce que nous étions avant. C'est-à-dire qu'une forme de vieille nostalgie de ce qu'était la France et que nous retrouverions à travers
les choix d'extrême droite. Elle est le pendant de Donald Trump en France. Alors certains disent aussi que Nicolas Sarkozy a une résonance avec Donald Trump. Est-ce que vous irez jusque-là?
Écoutez, je ne suis pas un commentateur de la vie politique au point de vous faire toutes les correspondances. Je vois qu'il s'en revendique. Qui s'en revendique aujourd'hui? Laurent Wauquiez, il s'en revendique. Nicolas Sarkozy, il s'en revendique.
Sarkozy a dit au contraire, je ne suis pas Donald Trump.
J'observe qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de points communs dans les campagnes de Donald Trump et Nicolas Sarkozy. Alors, s'il ne s'en revendique pas, il s'en inspire. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, trouve aussi que Donald Trump, c'est formidable. La réalité de Donald Trump, c'est que c'est un discours homophobe, raciste, intolérant, et qui vise à quoi? À continuer à cliver des sociétés qui sont déjà profondément fracturé par les inégalités. Si c'est ça le modèle qu'il souhaite, moi je n'en veux pas. Je ne veux ni pour mon pays, ni pour mon continent, ni pour les États-Unis d'Amérique, pas davantage pour le reste du monde. Donc je pense surtout que...
Mais il est belliqueux au point de pouvoir déclencher une nouvelle guerre. Est-ce que vous êtes à ce point-là ?
Personne ne le sait, justement. Personne ne sait ce dont serait capable Donald Trump. C'est que
donc même
il surprend jusque dans tous les domaines, mais il surprend dans le pire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les experts américains qu'on peut rencontrer disent sa seule chance de gagner, c'est si finalement il se tait jusqu'au bout. Donc ce qui montre bien, c'est que ça va dans des campagnes électorales, mais s'il devait demain diriger la principale puissance au monde, autant vous dire que ce serait quand même très 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 inquiétant.
Alors c'est allé voir Bernie Sanders aux États-Unis. C'est amusant parce que on a l'impression que, au fond, vous êtes un peu comme lui, c'est-à-dire que c'est plus un tour de piste qu'il a fait cette fois-ci pour peut-être recomposer la gauche américaine, mais qu'il ne croit pas beaucoup à la gauchisation de Hillary Clinton. C'est un peu comme vous, en fait. On a un peu l'impression aujourd'hui que vous êtes là pour préparer un peu l'après-défaite de la gauche, l'après 2017, mais pas tellement pour gagner cette campagne-là.
Une condition de témoignage, quoi, Benoît Hamon.
Oui, j'ai bien compris le raisonnement de Christophe Jacubizine. Si on est candidat pour témoigner, ça veut dire que finalement on accepte la perspective d'un nouveau quinquennat de Nicolas Sarkozy, le cas échéant d'un quinquennat de Marine Le Pen,
ou de François
Hollande.
Et
qu'on pense que la gauche pourrait prospérer sur les ruines qu'on nous laisserait là. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, ce n'est pas mon projet. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, quand je pose les questions ou quand je place les questions du travail, la question sociale au cœur du débat présidentiel, c'est parce que je pense qu'il y a eu une urgence à ce que ces sujets qui étaient sous la toise soient remis au cœur du débat politique. Le succès de Bernie Sanders, c'est cela. Alors, c'est un succès, vous allez me dire, relatif, mais on parle des États-Unis d'Amérique. Un succès relatif parce qu'il n'a pas gagné
vous,
la primaire.
Vous irez jusqu'au bout ? Est-ce que vous êtes décidé ? Est-ce que rien ne vous fera flancher ?
C'est marrant qu'il faille répéter la même réponse.
Mais non, parce qu'il y a des questions qui se posent. Je vous le dis très clairement. Il y a un risque d'éparpillement. Vous allez faire ça au mois de janvier quand la droite aura
choisi son champion. Est-ce que la manière la plus claire possible. Il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon aux primaires. Vous aurez le choix entre plusieurs bulletins de vote. Parmi ceux-là, il y aura un bulletin de vote
même
sur lequel
si
il y aura marqué
bulletins de vote,
Benoît
Hamon. Mais il faut que François Hollande, votre candidat, et que vous finirez par voter pour lui à la présidentielle.
Moi, je pense que, je l'ai déjà dit, si je suis candidat, c'est que je pense non seulement que les propositions que je porte correspondent à ce que souhaite
l'électorat. Oui, mais si vous êtes dans les primaires, ça veut dire que quel que soit le résultat, vous soutiendrez le vainqueur.
Ça s'appelle la démocratie. Oui, mais c'est que dans les faits, quand Nicolas Sarkozy va gagner l'élection présidentielle, oui, ce sera mon président s'il la gagne. Et il a déjà été. Si c'est François Hollande, ce sera mon président.
C'est plausible, pour vous. Vous savez plusieurs fois que vous nous dites que Nicolas Sarkozy pourrait gagner cette élection.
Ce que je veux simplement vous dire, c'est que oui, le principe d'une élection, c'est qu'on en accepte le verdict. C'est valable pour une primaire comme une élection. Donc, des fois, on les perd.
Mais pourquoi il n'y aurait pas un candidat pour incarner la gauche de la gauche? Vous êtes contre Hollande, vous allez vous retrouver à 4, Montebourg, vous, Lindemann, Filoche, on parle aussi de Taubira.
D'abord, Alexis Brézé, comme pour la droite, vous aviez combien de candidats au point de départ? La primaire de droite.
Donc là, vous dites 15, qu'il y en aura moins
15-16. Ouais. Il y en a combien à la fin? 7.
Donc l'objectif, c'est qu'il y
ait... Non, c'est pas l'objectif. Il y aura moins de candidats sur la ligne de départ qu'il n'y en a aujourd'hui, forcément.
Mais qui ne sera pas sur la ligne de départ?
Parce qu'il faut
réunir...
Il faut réunir des parrainages. Je vous dis juste, moi, que sur les questions que je porte, et je le redis, la nécessité aujourd'hui de prendre en compte le travail tel qu'il est vécu, c'est-à-dire la souffrance au travail, et essayer de promouvoir le bien-être au travail, le fait de partager le travail, la mise en œuvre du revenu universel, le fait de s'attaquer à la protection sociale des indépendants, qu'on puisse avoir aujourd'hui la même protection sociale quand on a le même niveau de revenu, qu'on soit salarié ou pas, le fait d'anticiper ce que seront les conséquences de la réforme. Sur tous ces sujets-là, ces questions et les réponses et les solutions que je mets en débat, et je les porterai jusqu'au premier tour de la primaire.
Alexis Brézé.
Si je ne suis pas qualifié, vous me poserez la question. Mais rendez-vous à la fin du premier tour des primaires.
Vous n'arrivez pas à vous entendre avec Arnaud Montebourg, finalement, vous étiez assez proche.
Vous avez quitté le gouvernement en même temps.
Apporté la cuvée du redressement, apporté un toast à François Hollande ensemble, et vous êtes parti du gouvernement. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? C'est quoi la différence entre Montebourg et vous?
Et si vous lisez et vous écoutez ce que nous disons l'un et l'autre, vous la trouvez facilement.
Donc, vous allez nous la dire.
Vous êtes d'accord. C'est que moi, aujourd'hui, je mets en débat, en tout cas, j'espère que je pourrai le développer dans le temps qui me reste aujourd'hui. Solutions, je prends l'exemple du revenu universel, que personne ne propose. Mon analyse, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment, pour la France et pour l'Europe, où la crise est telle qu'elle nous invite à prendre des décisions et à ne pas perpétuer le système tel qu'il est. Je m'explique. Et c'est pour en revenir, j'esquiverai pas la réponse à votre question la différence avec Arnaud.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez unifier tous ces candidats? Est-ce que vous pensez, vous, Benoît Hamon?
Moi, je ne crois pas, et c'est une différence que j'ai avec lui, je ne crois pas que le fait de dire cap sur la croissance, comme le disent la plupart aujourd'hui de ceux qui se présentent au présidentiel, comme ils le disaient il y a 5 ans, comme ils le disaient il y a 10 ans, comme ils le disaient il y a 20 ans, que le fait de dire cap sur la croissance et de jouer sur les leviers du même tableau de bord, ici un peu de relance par l'investissement, ici de la relance par l'offre, etc., je ne pense pas que
cela... C'est ça la vraie différence.
Non mais attendez, je veux dire que c'est... Moi, je crois aujourd'hui que nous avons une crise de notre modèle de développement. Que non seulement nous ne faisons pas de croissance, mais que pour aller chercher un petit décile de croissance avec les dents, avec les dents, le coût social, c'est-à-dire les sacrifices qu'on demande aux Français de consentir, et le coût environnemental est tel qu'aujourd'hui, ces sacrifices sont des sacrifices dangereux.
C'est ce que vous appelez un modèle de tempérance par opposition au modèle de croissance porté par...
Un modèle tempérance qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'augmentation de la richesse produite. Évidemment, il faut continuer à créer de la richesse pour pouvoir la distribuer.
Il y a des pays qui continuent à créer de la richesse, des Américains par exemple, continuent à avoir une forte croissance.
D'accord, mais
on peut faire différemment.
Regardez aujourd'hui ce qu'est leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement de la planète, et vous verrez que ces modèles productivistes sont des modèles dangereux. D'ailleurs, tout le monde le dit. Chacun s'accorde sur cela. On a même passé un très bel accord avec la COP21. Désormais se pose la question de l'application de ces accords. On sait très bien qu'aujourd'hui, si nous restons sur les mêmes modèles de développement, les risques de réchauffement de la planète sont tels qu'ils pourraient menacer la planète entière de migration massive, de dégradation de notre cadre de vie.
Bien, Benoît, vous excluez tout rapprochement avec Arnaud Montebourg ce jour et avoir une seule candidature, que ce soit lui ou vous. Vous pensez que vous serez tous les deux sur la ligne?
Ça veut dire que Hollande va gagner?
Et je ferai la démonstration, je ne vois pas bien comment, mais...
Sur Montebourg, Benoît Hamon.
Je vous redis, je suis candidat. Moi, c'est sympathique de parler des autres.
Ça, c'est
encore un truc de journaliste sur lequel vous êtes en boucle. Donc, je ferme la boucle. Aujourd'hui, il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon aux élections primaires.
Voilà. Et Hollande ne la gagnera pas, par exemple, le souhaitait. Et Hollande ne la gagnera pas. C'est pas possible qu'Hollande gagne.
Je ne le crois pas. Alors, pas parce que je suis devin ou parce que j'aurais des capacités divinatoires. Je ne le crois pas parce que je considère aujourd'hui, d'abord, qu'il y a une vraie lacune dans la démarche de François Hollande. C'est qu'il n'y a aucun examen de conscience.
Vous souhaitez un mea culpa, quoi.
Non, pas un mea culpa. On examine ce que l'on a réussi et là où on a échoué. Aujourd'hui, l'échec de ce quinquennat, j'en suis malheureux parce que j'y ai participé pendant 2 ans et demi. L'échec de ce quinquennat, il est d'abord économique et social. Les inégalités sont plus fortes, la pauvreté a augmenté, et même s'il y a des progrès, alors je vais vous le dire, le compte pénibilité c'est formidable.
Mais globalement, c'est généralisé. Il n'a même pas essayé une politique de gauche, vous avez dit.
Dans certains domaines.
Vous avez dit, il n'a même pas essayé une politique de gauche.
Je redis, donc c'est un raccourci du Figaro.
Dans l'indépendant au mois d'août.
Oui, dans certains domaines, nous n'avons pas essayé une politique de gauche. Oui,
il y a quelques semaines, vous disiez qu'il perdra la présidentielle. Aujourd'hui, vous dites qu'il perdra la primaire.
Ah, je pense aujourd'hui qu'il perdra la primaire. C'est pour ça que je suis candidat, c'est pour la gagner. C'est pas pour regarder le chemin qui sera celui de François Hollande.
Est-ce qu'il est toujours de gauche? À vous entendre, on se demande si François Hollande est toujours de gauche.
Mais oui, mais évidemment que c'est un homme de gauche. Mon problème, c'est pas de dire qui est chimiquement pur, ça n'a aucun sens. Écoutez, se pose la question de savoir aujourd'hui si la social-démocratie... Dans les noms, il y a toujours une promesse sociale et démocratie. Et sur la loi travail, nous n'avons ni été social ou sociaux, si on peut le dire au pluriel, ni démocrate, puisque nous l'avons passé par le 49-3. Donc, on en arrive à ce point-là, c'est vrai que la politique, c'est
vous
un peu comme le Premier ministre
vous
le disait,
vous une langue morte. Sur son caractère socialiste.
Mais je pense que surtout, c'est ce qu'il faut essayer de regarder, c'est avons-nous répondu aux préoccupations de ceux qui, aujourd'hui, vivent de leur travail ou aimeraient travailler? Est-ce qu'on a amélioré les conditions de travail?
Et vous dites non, Benoît Hamon.
Aujourd'hui, je dis non. Et je considère que sur la promesse essentielle qui est celle de la gauche, d'améliorer les conditions d'existence des Français, nous n'y sommes pas parvenus. Alors, on va pouvoir brandir des résultats sur la question des déficits, mais est-ce que l'objectif d'une politique aujourd'hui, c'est simplement d'avoir le regard fixé sur le déficit de la Sécu ou le déficit des comptes publics, ou il est de savoir comment on anticipe des évolutions? J'espère qu'on en parlera, mais tout le monde parle de la révolution numérique. Oui. On sait très bien qu'il y a des secteurs entiers qui vont profiter d'opportunités formidables, et ces progrès sont en marche, et d'autres qui vont s'effondrer.
On va venir juste une dernière question avant qu'on vienne sur vos propositions. Oui, oui. On a vu François Hollande à qui on remettait... François Hollande s'est vu remettre ce prix d'homme de l'année à New York. Vous y étiez quasiment en même temps. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que c'était mérité ou pas ? Vous ne l'auriez pas décerné ?
Non, mais attendez, bon, les prix, je pense que là-dessus...
Enfin, tous ceux François qui l'ont perdu, d'ailleurs.
François Hollande est assez lucide par rapport à ce type de prix. D'ailleurs, on n'est pas président de la République pour avoir un prix à la fin de son quinquennat. C'est pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.
Mais il est mérité,
justement. Bon, je ne sais pas quels sont les critères. En tout cas, si c'est sur l'année dernière et la réussite de la COP21, oui, c'est mérité. Et bravo aux équipes françaises d'avoir réussi la COP21. Après, moi, je ne suis pas
sûr... C'est un prix qui est aussi...
Lutte contre le terrorisme et son action.
D'abord, je ne suis pas membre d'un jury qui décerne les prix. J'aspire, moi, à être candidat de la gauche aux primaires. Voilà.
Alors, justement, sur les propositions économiques, vous en avez plusieurs, et notamment une, c'est la diminution du temps de travail, Benoît Hamon.
Que je lis au revenu universel.
Alors, on va en parler, mais d'abord, vous êtes favorable à une nouvelle diminution du temps de travail, même à la semaine des 32 heures. Est-ce que ce n'est pas illusoire?
Et des 4 jours, même, je crois.
Des 4 jours, mais, regarde les résultats des 35 heures.
32 heures payées. Payer 35.
Le but, c'est pas de diminuer le salaire des gens.
Alors, on va laisser répondre Benoît Hamon sur ce thème-là et par rapport aux 35 heures.
Bon, on a toujours tendance à vouloir tout réduire, c'est un peu la loi du genre. Moi, je dis réduction du temps de travail, la formule 32 heures, 4 jours, année sabbatique. Ça se négocie, parce que la réduction de temps de travail, ça se négociera, au niveau des branches et au niveau des entreprises, la preuve que je ne suis pas contre la négociation, mais que ça se négociera avec les formules, on peut s'adapter. Pourquoi est-ce que je pense que c'est nécessaire ? Je veux revenir, justement, si je peux avoir juste quelques secondes pour expliquer. On sait que nous allons avoir un bouleversement de notre économie lié à quelque chose de formidable, la révolution numérique, qui va permettre que des applications, des technologies se substituent parfois au travail pénible des hommes. Donc on va avoir des secteurs dans lesquels déjà tout de suite les transports, la consommation, la grande distribution ou les ordinateurs, des robots, des applications vont se substituer à des individus. Le travail va s'y faire plus rare. Ce que moi je souhaite, c'est que d'abord, première question, on s'interroge là où le progrès technologique est un progrès social et là où il peut se traduire par une régression sociale et un renforcement des inégalités.
Alors, travail différent selon le secteur et selon les branches.
Mon analyse, et c'était mon voyage aux États-Unis ne m'a fait que confirmer mes convictions dans ce domaine-là, c'est que dans beaucoup de domaines, le travail va être beaucoup plus rare. Et que si on ne le partage pas, nous aurons quoi ?
Mais on a déjà essayé
voilà, ça n'a pas tellement marché.
Pardon de vous dire, ça c'est le catéchisme du Figaro sur la réduction du travail.
Vous ne pouvez pas dire qu'en termes de chômage,
Dites-nous quels sont vos chiffres.
Et pour répondre à Alexis Brézé, tout le monde les connaît et ils sont indiscutables. C'est que sur la période entre 1997 et 2002, les Français ont travaillé 4 heures en moins, en tout cas, pour ce qui était du temps légal. Parfois, certains ont fait plus d'heures.
Le chômage n'a pas tellement réduit.
On a créé 355 000 emplois.
Et maintenant,
c'est que quand ça crée des emplois, c'est pas la réduction du temps de travail, mais aujourd'hui il y a toujours la révolution numérique, il y a pas la réduction de temps de travail, vous avez des chômeurs en plus.
Dans beaucoup de pays, il y a plus de chômage.
Donc vous avez pas les réponses. En Allemagne,
il y a la pause
d'année. Justement, on fait combien d'enfants en moins ?
Comment ?
Et alors, je reviens à mon raisonnement.
On aura besoin de partager le
travail. Dans certains secteurs, chacun le sait. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse être stratège et anticiper. Il y a des domaines dans lesquels la révolution numérique, ce seront des opportunités qui ne se traduiront pas par de la destruction d'emplois, et puis par principe.
Donc c'est pas les 32 heures pour tous, alors ça dépendra des secteurs.
Ce sera négocié. Mais non, mais moi je souhaite le partage du travail et la réduction du temps de travail, comme c'est le mouvement depuis un siècle. Vous avez le droit de dire on va l'interrompre. Et c'est une position politique et une option politique que j'accepte. Si vous défendez cette option politique selon laquelle il faut augmenter le temps de travail, qui semble être celle du gouvernement, puisqu'il a facilité le recours aux heures supplémentaires, qui seront moins bien payées, eh bien je pense que nous aurons quoi ? Nous aurons ceux qui travaillent, et de moins en moins bien dans le travail, avec une explosion des pathologies psychiques.
De créer des nouvelles activités, c'est ça, l'économie,
on
travaille plus là.
D'accord, mais vous ne créerez pas autant de postes, de développeurs, de community managers,
que de
hôtesses de l'air, de taxis, de chauffeurs,
donc c'est un appauvrissement général.
De caissières, etc. qui vont disparaître. Savez-vous par exemple
ce qui se passe dans les autres pays ? Dans les autres pays, il n'y a pas de chômage. Il y a pas de chômage en Angleterre, en Allemagne. Donc il y a un bien problème français.
Mais vous avez quel est le taux de pauvreté en Allemagne ? C'est intéressant. Vous avez raison. Le taux de chômage en Grande-Bretagne et en Allemagne, il est entre 5 et 6%. Mmh. Quel est le taux de pauvreté ?
Vous n'avez pas la réponse.
Il est entre 16 et 17%. Donc on a échangé quoi ? Moins de chômage contre plus de pauvreté. Quelle est notre situation ? Elle n'est pas forcément bien meilleure. Elle est 10% de chômage et 14% de pauvreté. Le chemin qu'on nous propose aujourd'hui, il est de savoir, et c'est ce que proposent des libéraux, qu'ils soient de gauche ou de droite, est-ce qu'effectivement on réduit les protections des salariés pour qu'il y ait davantage de travailleurs mais pauvres, et ainsi diminuer le chômage ? Moi je pense qu'aujourd'hui, on peut, et je vous le dis,
vous pensez qu'il au
regard de la richesse de ce pays, on peut avoir moins de chômage et moins de pauvreté.
Et moins c'est de la raison pour laquelle. Vous, ça et alors, peut aller c'est la...
Est-ce qu'on peut avoir on peut aller sur le revenu universel. C'est quoi le revenu universel?
Expliquez-nous parce qu'on a pas nos calculettes, qu'elles se sont un peu affolées. Il n'y a pas assez de zéros.
Vous savez qu'on est à 450 milliards hein, si on entend votre raisonnement. Bon, dites-nous exactement comment il
s'articule. C'est quoi votre raisonnement qui a 450 milliards?
Non, mais parce que vous annoncez le revenu universel, c'est de la naissance pour certains, pour les puristes. Benoît Hamon, je l'explique.
C'est pour les majeurs, 18 ans.
Mais de même de 18 ans jusqu'à la mort, on a 40 millions de personnes. Donc on explique juste aux téléspectateurs, c'est-à-dire donner un revenu minimum, un revenu mensuel à tous les Français, quel que soit leur âge, et sans conditions d'activité. Alors expliquez-nous.
J'essaie d'être en lien avec l'analyse que je fais de la situation. Une révolution numérique qui nous amène à ce que certains secteurs y aient moins d'emplois, d'autres y en aient plus, mais une raréfaction du travail. Deuxièmement, un modèle de développement qui doit reposer sur une croissance modeste, mais avec l'objectif que ce soit sobre sur le plan
combien,
écologique.
Combien, quelle croissance ça peut marcher?
Je sais pas.
Celle qu'on connaît aujourd'hui,
mais
important. Non,
on est aujourd'hui, mais je sais pas, vous savez, pour être très honnête, ce qu'on constate, c'est qu'on en fait. Non, mais, bon, mais parce que personne ne sait. Parce que si vous voulez que je vous dise quoi, qu'on fera trois, tout ce qu'on dit qu'on fera trois.
Non, mais à quelles conditions ça peut marcher, vous savez ça,
aujourd'hui, ces modèles de développement, on les fonde sur quoi? Sur la recherche de la sobriété écologique, c'est-à-dire le développement des filières dans lesquelles on va organiser la transition écologique et la transition énergétique, et sur le principe selon lequel on réduit le temps de travail et on met en place le revenu universel.
Alors,
c'est quoi
ça?
Avant de dire combien, je vais vous dire combien après.
Et chiffrez-le, c'est important quand même.
D'accord. Sauf que vous avez remarqué. Le débat politique aujourd'hui, il se passe d'un horizon, et on parle que des chiffres. Non, moi, je vais vous donner l'horizon,
sur
et je vais vous dire les étapes pour y aller.
Coûts.
Oui, d'accord. Mais il y a des coûts, et je vais vous dire comment on le finance. Le revenu universel, c'est le principe selon lequel toute personne, riche ou pauvre, dès lors qu'elle est majeure, perçoit un revenu, qui est un revenu universel, qui n'est pas le revenu minimum comme on a connu avec le RMI ou le RSA, qui serait réservé aux personnes les plus modestes, toute personne le reçoit. Quel est l'objectif?
Combien
oui. Attendez, d'abord je veux parler de politique.
Et vous, ça les intéresse
de savoir aujourd'hui comment leur vie va s'améliorer et comment elle cesse de se précariser. Aujourd'hui, vous bossez, vous travaillez, vous n'êtes pas maître de vos horaires, vous n'avez pas accès à des services publics. Je pense aux mères célibataires. L'Île-de-France, c'est quoi? Un ménage sur quatre, c'est une femme seule avec des enfants. Elles, ces femmes-là, elles n'articulent pas leur vie personnelle et leur vie professionnelle comme elles choisissent et elles ont un salaire qui est souvent de misère pour bon nombre d'entre elles.
Alors, donc j'aimerais.
Oui, mais d'accord, mais parlons de parler des gens, parce que les invisibles, à force qu'on n'en parle pas, non seulement il y a moins de démocratie parce que les gens ne votent pas, mais en plus quand ils votent pour les extrêmes. Donc ce serait bien qu'on s'intéresse à ça aussi.
Sur le revenu
donc le revenu universel, chaque personne percevrait ce revenu-là. Quel est l'objectif? C'est qu'on soit moins dépendant du travail. Que clairement demain, ce revenu vienne s'ajouter à un travail. Parfois, ça peut être un travail non salarié. Ces formes-là de travail ne cessent de se développer en France. Il est temps d'anticiper.
Dans les associations.
Ça facilite la prise de risque quand on veut avoir un projet de création d'entreprise, quand on veut être auto-entrepreneur, quand on veut avoir un projet de création associative. Et ça permet d'être donc moins dépendant du travail. Donc de choisir aussi, parfois de réduire de manière délibérée, son temps de travail, parce qu'on sait qu'on dispose. Pour que ce soit, pour que ça ait un premier impact, ça ne peut pas être en deçà du RSA socle aujourd'hui, c'est-à-dire de 535 euros. L'objectif ne peut pas être d'en rester là, puisque l'objectif doit être de porter le revenu universel à 750, voire 800 et 1000 euros, qui peut être un objectif qui ne se réalise pas à la fin.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Et on supprime le reste ou pas? Le RSA, tout ça, ou ça remplace?
Non, c'est là où les questions sont importantes. Et c'est là où je veux simplement vous dire, c'est que on n'est pas juste dans dans du bricolage. On est vraiment dans
une vraie révolution. Hein. Personne ne l'a fait. Je dis juste qu'il y a une expérimentation qui va se faire en Finlande sur 2000 personnes qui pourraient être généralisées. C'est une idée qu'ils vont essayer, mais c'est un tout petit pays. Vous proposez à l'échelle de la France, et ça
qui ont eu lieu
pour 40 millions de personnes.
D'Auckland aux États-Unis, il y a déjà eu des expérimentations au Canada.
Europe, je parle
et ce qui
de
est intéressant, c'est de voir quels ont été les impacts. Et d'un mot, parce qu'il y a une inquiétude souvent chez bon nombre de nos compatriotes quand on leur parle de ça, outre l'enthousiasme que cela soulève, mais c'est de savoir est-ce que ça n'encourage pas finalement une forme d'oisiveté. C'est-à-dire, je préférerais ne pas travailler grâce à cela. Ce qui est très intéressant, c'est sur les expérimentations qui ont eu lieu, dans, notamment au Canada, c'est le nombre de personnes en pourcentage qui ont abandonné leur travail avec un revenu universel. Mm-hmm. 3% chez les femmes, sans doute lié au fait qu'aujourd'hui, quand on est femme, articuler vie personnelle et vie professionnelle est plus difficile à raison du fait qu'elles concentrent l'essentiel des tâches domestiques et que cela ne change pas et qu'en matière d'inégalité,
femmes-hommes,
et 1% des hommes, mais pourquoi ? Parce que vous rediminuez votre temps de travail, que vous articulez différemment votre vie personnelle.
Mais de gauche, c'est quand même pas donné à ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce que c'est pas ça la base de votre idéologie ?
Si les milliardaires français vont percevoir 500 euros, évidemment, la fiscalité que nous allons mettre en œuvre va nous amener à devoir financer. On va d'abord par l'individualisation de l'impôt sur le revenu.
Est-ce que ça remplace les minima sociaux qui existent déjà ?
Pas tout.
Ou bien est-ce que ça s'ajoute ?
Pas tout. Les questions qui se posent, et que moi je me refuse de trancher à cette étape parce qu'il faut continuer à travailler, c'est la question du cumul du revenu universel et des aides au logement. Évidemment, on n'est pas dans. En gros, ce n'est pas une sorte de bricolage par lequel on simplifierait les aides existantes pour finalement avoir qu'une aide un petit, autour de 4
euros. Je souhaite
que le revenu universel permette demain de libérer une partie des individus d'un travail dans lequel ils ne s'épanouissent pas, dans lequel ils souffrent, et pour lequel le coût social, je le rappelle, est considérable. Pour l'assurance maladie, pour la branche accident du travail, maladie professionnelle, et en général, pour le bien-être de la société française.
Ce que propose Manuel Valls, si je vous entends bien, c'est du bricolage. Il dit depuis quelques jours qu'il veut faire le revenu universel, que ce serait une fusion des minima sociaux. Pour vous, c'est un minima, et ça pourrait être une promesse de campagne du candidat.
Non, mais il y a là une sorte de. On joue avec les mots, ça n'est pas un revenu universel d'existence. Mmh. Et le Premier ministre baptise une fusion des aides existantes sous la forme d'un revenu qui ne sera ni universel et ne vise pas à l'objectif, qui est un objectif, au demeurant, il est cohérent. L'objectif de la loi travail, ça n'était pas c'est le contraire de ce que je propose. Donc moi, je propose qu'on favorise, si possible, et d'ailleurs qu'on encourage les entreprises à cela, le bien-être au travail. Alors le coût,
500 euros par mois.
Je vais vous donner le chiffre.
On va laisser Benoît Hamon nous chiffrer.
Nous sommes au chiffre du RSA actuel. On est sur une somme qui tourne autour de presque 300 milliards d'euros.
300 milliards d'euros pour l'instauration du revenu.
Il y a déjà des aides, évidemment, qui seront englobés dedans.
J'ai 200, il me dit non, 300. Alors 300, alors.
Non, mais moi, je n'ai pas l'habitude de
300 mentir. 300 milliards, c'est énorme,
Mais d'abord, il y a des aides qui existent.
Alors, ensuite, vous les trouvez où,
il y a l'individualisation de l'impôt sur le revenu qui peut immédiatement dégager 24 milliards d'euros. On sait très bien que sur l'évasion fiscale, il y a des moyens considérables. C'est un manque à gagner de 80 milliards. Il y a 84 milliards de niches fiscales aujourd'hui. Donc, les pistes, elles existent. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que aujourd'hui en politique,
sur le déficit, ça veut dire que les 3%, vous asseyez dessus, c'est plus important pour vous, ça.
On commence par les chiffres, pour finir par dire quoi ? Qu'on ne fait rien et qu'on ne peut rien faire. Moi, je commence par un projet et un horizon politique.
Par une refonte de l'impôt sur le revenu complète.
Je vous dis, au moins l'individualisation. Et à l'évidence. Mais je veux aller plus loin parce que le revenu universel, il doit à côté s'accompagner d'autres choix politiques, notamment pour la protection sociale. Je vais prendre un exemple.
On va y revenir.
Tous les travailleurs indépendants. Moi, je suis favorable à ce qui est un principe aujourd'hui. À cotisation sociale égale, eh bien, la protection sociale égale. C'est pas possible de laisser des indépendants, ils sont de plus en plus nombreux, se retrouver quand ils sont fragiles et vulnérables, aussi mal protégés qu'ils le sont aujourd'hui.
Vous exonérez, ce n'est plus un objectif d'avoir 3%.
Mais tout le monde sait que les 3%, tant sur la question du niveau d'endettement que sur la question du déficit public, c'est un chiffre dont l'histoire est connue, c'est presque un chiffre de coin de table, ça n'a aucun sens. Les politiques d'austérité ont renforcé les inégalités, le chômage en Europe, et on voudrait continuer.
D'accord.
Donc moi, je vous dis tranquillement,
Benoît Hamon, on va y revenir.
C'est l'histoire des 3%, c'est un chiffre.
On y revient juste après la pause pour votre grand jury. Benoît Hamon, à tout à l'heure.
Et j'espère qu'ils ont bien mangé ce jour-là.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Benoît Hamon, député de la 11e circonscription des Yvelines et candidat aux primaires présidentielles socialistes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Alors Benoît Hamon, vous nous avez dit dans la première partie de l'émission que François Hollande, s'il était candidat à la primaire, perdrait cette primaire. Vous vous y présentez et vous souhaitez la gagner. Et nous étions en train de parler longuement du revenu garanti universel et se pose la question de savoir comment le financer. Vous avez affiché le chiffre de 300 milliards, je ne me trompe pas. Et ça veut dire, en termes de déficit, est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'affranchir des 3% que la Commission européenne impose? Pierre Moscovici se disait ce matin, c'est impossible, il faut respecter ces règles.
Oui, mais bon.
Qui était votre collègue au gouvernement.
Oui, je me souviens, et qui essayait par toutes sortes d'astuces d'essayer de contourner les 3% quand il était ministre de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était pas bon pour l'emploi et pas bon pour les salaires. Donc maintenant qu'il est commissaire européen, il fait le travail d'en face. Mmh. Donc bon, on peut passer comme ça d'un rôle à un autre, tout ça est bien. Moi, ça, j'aspire pas à ce genre de jeu de chaise musicale. Ce que je veux simplement dire, c'est que. Il y a un consensus des économistes pour dire les 3%, ou en tout cas les politiques d'austérité, ça se sont traduits par davantage de pauvreté, d'inégalité en Europe.
Il faut redire que les 3% permet normalement de baisser le niveau de la dette.
Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, on emprunte.
S'il y a de la croissance,
s'il n'y a pas de croissance, on emprunte à des taux extrêmement bas.
Oui, on emprunte. Voilà. Mais est-ce que ça va durer?
Donc ce modèle-là, même à la Banque Centrale
Européenne, Benoît Hamon, de parier sur des taux d'intérêt très bas.
Mais de quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse, franchement? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Les Français. Oui, mais non, mais pardon de le répéter.
Financer,
oui, mais Monsieur Brézé, mais à force de répéter cela, regardez, vous êtes tranquillement sur votre chaise et vous demandez à tous les politiques, mais Monsieur un tel ou Madame un tel, comment avec nos déficits, avec notre dette, à la fin on a quoi? La dette sociale, c'est du chômage. La dette sociale, c'est des petits salaires. La dette sociale, ce sont des inégalités, de la pauvreté, de la précarité. Moi, c'est cette dette qui m'intéresse. Ce que nous devons aux Français dans un pays qui chaque année est plus riche et plus éduqué. Ah. Donc, je redis. Oui, nous pouvons parfaitement nous affranchir de critères qui n'ont eu comme conséquence que d'augmenter la précarité dans l'Europe, d'augmenter l'austérité, le recul des services publics, et par ailleurs, de ne pas empêcher les dividendes de continuer à exploser, les marges des entreprises, notamment les plus prospères, de continuer à grandir, de ne pas empêcher certaines grandes entreprises de ne toujours pas payer d'impôts, et de constater quoi, pour ceux qui nous écoutent, que les grandes entreprises françaises continuent à payer en moyenne 8% d'impôts sur les bénéfices des sociétés, les petites boîtes, les petites entreprises payent tout près du taux de l'IS qui est à 33%. Donc aujourd'hui, ce que je veux simplement vous dire, c'est que ça ne marche
alors
pas.
Alors juste une question concrète d'actualité. On a vu cette semaine que le gouvernement se targuait de ramener le déficit de la sécurité sociale à l'équilibre en 2017. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou est-ce que ça ne doit pas être une priorité de la gauche
politique
aujourd'hui que de diminuer ce déficit dont on nous parle depuis des années et des années? Est-ce que cet objectif-là finalement c'est secondaire pour la gauche?
Sur le déficit de la sécurité sociale, d'abord, on ne parle pas de la dette, parce qu'on doit, la CADES, continuer à financer.
Tout
il y a une
fait.
Dette qui est
pareil pour le budget d'État,
qui est à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'on a un modèle qui est un modèle de sécurité sociale qui va arriver à l'équilibre. Cela étant dit, nous avons consenti des sacrifices sur les retraites.
Mais il fallait le faire
sur les retraites, je pense qu'il
faut. Et sur les remboursements de médicaments, pour les gens qui nous écoutent.
Remboursements de médicaments, si vous voulez, mais qui doit nous amener à dire ce que nous voulons pour notre système de santé. Moi, je pense aujourd'hui que les objectifs fixés sur les économies de gestion, sur les économies que doivent réaliser les hôpitaux, sont beaucoup trop lourds. Parce que la réalité, c'est que notre système de santé, sans un service public hospitalier performant, qui assure l'égalité des soins, ce système va devenir de plus en plus inégalitaire. Et donc,
c'est un hôpital à deux vitesses pour vous aujourd'hui?
Je pense qu'on est en train de se développer, voir se développer en France, déjà un système de santé à deux vitesses.
Et si donc, vous n'avez pas...
ceux qui nous écoutent ou nous regardent, ou vous... n'avez pas une bonne complémentaire santé.
Aujourd'hui, on a plafonné
d'ailleurs les remboursements.
Écoutez, oui, vous pouvez voir le pire, c'est-à-dire que les hôpitaux américains, sans votre carte bleue, vous n'êtes pas soigné, et constatez aujourd'hui, d'ailleurs la Cour des comptes le disait sur les soins dentaires, qu'il y a aujourd'hui, pour l'accès à des soins de base, besoin d'avoir une très bonne complémentaire santé si vous voulez pouvoir être soigné correctement. Donc notre système de santé est en train de se fracturer de ce point de vue-là, reposant de plus en plus...
cette politique d'économie, au fond.
C'est pas comme ça que je poserai les choses, parce que je veux pas opposer l'un à l'autre. C'est mieux d'avoir un système de santé efficace, efficace d'abord pour les patients, parce qu'on dit tous vive l'hôpital public français, et en même temps, qui soit à l'équilibre. Je pense que la vraie révolution qu'il faut opérer dans notre approche de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, c'est le choix de la prévention plutôt que du tout curatif.
C'est pas ce qui est fait aujourd'hui pour vous? Pas suffisamment.
C'est fait à dose, non pas homéopathique, mais parce que l'homéopathie ça soigne, cosmétique, c'est-à-dire qu'on fait qu'on ne va pas assez loin. Je vais vous prendre un exemple si je peux, parce que c'est une proposition.
Oui, parce qu'on parlait d'éducation.
Moi,
aussi.
Je souhaite. Parce que nous constatons aujourd'hui que les effets sur la santé et le bien-être sont réels, je souhaite que demain, on puisse rembourser par la sécurité sociale les activités physiques quand elles sont prescrites à des personnes âgées dépendantes, à des personnes en général exposées à un risque de maladie chronique, à un risque de maladie, et où on sait que l'activité physique peut éviter demain qu'on ait à hospitaliser des personnes avec un coût extrêmement important pour la collectivité. Donc je souhaite que cet investissement soit fait sur la prévention à travers le remboursement de l'activité physique, comme je souhaite, je vais vous donner une autre piste d'économie, que demain, plutôt que d'acheter des tablettes de médicaments, on aille vraiment au bout de la réforme qui est de la distribution du médicament.
Lutter contre l'unité, les lobbies pharmaceutiques, ce que n'a jamais fait la gauche non plus.
Non mais le médicament, l'unité, d'un mot, demain vous allez chez le médecin, il va vous prescrire deux cachets par jour sur 10 jours ou sur 5 jours, et vous allez vous retrouver avec deux tablettes.
Pourquoi ça,
avec deux
fois, pourquoi ça ne s'est jamais fait? Pourquoi la gauche n'a pas réussi à faire ça?
Mais je pense
Est-ce que c'est les lobbies?
En tout cas, ce qui est clair, c'est que le lobby pharmaceutique, il existe dans ce pays, et que pour autant, en dépit du fait qu'il est très consommateur de crédit impôt recherche, je pense à un certain nombre de grandes entreprises pharmaceutiques qui consomment beaucoup d'impôts de crédit impôt recherche, leurs stratégies de maintien de l'emploi sont parfaitement discutables, puisqu'on continue à fermer et à supprimer des emplois dans ce secteur-là. Donc, oui, aujourd'hui, il y a des activités qui bénéficient du fait que la sécurité sociale rembourse, que les complémentaires remboursent. Je pense que si on allait regarder les marges des laboratoires pharmaceutiques, si on s'intéressait à la distribution du médicament à l'unité, on ferait des économies et ce ne serait pas moins bon pour la santé des Français.
On vous a entendu. Christophe Jakubicine, sur l'éducation, c'est un autre thème. Vous avez été ministre de l'éducation de manière courte, mais vous l'avez été.
Et vous proposez d'augmenter la durée obligatoire de la scolarité, enfin de la portée de 3 à 18 ans. Vous êtes en phase avec ça, c'est-à-dire que vous considérez que c'est nécessaire pour justement mieux intégrer et...
Je ne mettrai pas la priorité là.
Ah bon? Non. L'ancien ministre de l'Éducation nationale ne met pas la priorité là.
Non, je ne la mettrai pas là.
Il faut juste dire qu'aujourd'hui, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, et donc Najat Vallaud-Belkacem dit qu'il faut aller...
Je comprends, l'objectif c'est la lutte contre le décrochage. Elle est parfaitement en accord avec les choix politiques qui ont été faits dans l'éducation nationale depuis 4 ans. Et je le dis ici, je pense que ces efforts-là paieront sur ce qui me semble essentiel, le niveau en français et en mathématiques des enfants en primaire. Ce qui était notre objectif principal, c'est qu'on retrouve un bon niveau de l'école primaire.
Pourquoi ?
Parce que je pense que la question aujourd'hui qui nous est d'abord posée, elle est celle du primaire et du collège, c'est-à-dire la manière dont on permet à tous les enfants de maîtriser ce qu'on appelle le socle commun de connaissances et de compétences, et que nous avons aujourd'hui un système d'orientation en fin de troisième qui, à bien des égards, est obsolète et qui privilégie, dans les faits, des formes de reproduction sociale que moi je juge inadmissibles. Je vais vous dire, je suis élu d'un territoire en difficulté. Combien de fois j'ai entendu des jeunes... C'est valable, pas simplement dans les banlieues, mais c'est valable dans beaucoup de territoires où on vous dit parfois, cette filière-là, elle n'est pas pour toi. La filière générale, c'est pas pour toi. En dépit de bons résultats, pourquoi ? Parce qu'on anticipe, c'est pas le cas partout, mais on anticipe finalement l'échec, et qu'il y a des enfants qu'on prépare à la réussite scolaire bien mieux que d'autres. Alors certains partent avec un handicap réel, on n'a pas forcément chez soi des parents pour vous payer un séjour linguistique, une aide aux devoirs individualisée, vous accompagner dans le fait de réussir votre scolarité, on n'a pas forcément le réseau pour vous mettre dans le bon collège qui prépare au bon lycée, etc. etc. Donc ces handicaps existent, mais je pense que la question centrale aujourd'hui qui nous est posée, il y en a deux, je vais vous dire, moi la priorité là où je la mettrais, elle est sur la formation continue des enseignants. La formation initiale, nous l'avons rétablie. Il faut largement améliorer la formation continue, notamment parce que sont en train de faire irruption des pédagogies liées au numérique qui supposent d'être mieux formés, et changer le système d'orientation qui est en fin de troisième.
Et par exemple, quand Myriam El Khomri propose de donner le taux de réussite dans chaque filière professionnelle, le taux de réussite si vous adoptez telle ou telle qualification, vous êtes contre ou vous êtes pour
J'ai pas compris la question.
Myriam El Khomri propose que pour telle filière, on dise le taux d'avoir un emploi à l'issue de cette formation. Le taux
l'employabilité. C'est-à-dire, on choisit ses études en fonction de l'employabilité.
Mais moi, je ne suis pas contre le fait qu'on dise et qu'on présente le choix de telle filière professionnelle en lien avec la dynamique du marché. Et je vais même vous dire, sur la réforme de l'apprentissage que je souhaite, je souhaite, moi, que sur la question de l'apprentissage, il y ait davantage de liberté pour les entreprises de pouvoir, aujourd'hui, dans certains secteurs, organiser des filières d'apprentissage qui permettent de former des jeunes en alternance, qui est une des voies d'accès à l'emploi les plus efficaces, et en étant beaucoup plus agiles et réactifs par rapport aux évolutions des métiers. Je pense
c'est ce que dit la ministre du Travail aujourd'hui.
Oui, mais c'est
après
très bien.
Après avoir quand même sacrifié l'apprentissage question, au début du quinquennat, l'apprentissage est tombé au début du quinquennat.
Moi, j'ai été ministre de l'Éducation et avant ministre de l'Économie sociale et de la consommation. D'ailleurs, au passage, sur la consommation, quand on regardera l'impact de ma loi dans le secteur des assurances, dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'optique, par rapport à d'autres lois dont on parle beaucoup qui n'ont eu aucun impact, on verra que la loi consommation, elle a rendu ses services aux Français, elle a créé l'action de groupe, elle aura redonné du pouvoir. Là où,
une dernière question sur l'éducation, parce que c'est important.
C'est toujours bien d'avoir un bilan. Et moi, j'ai un bilan.
Vous pensez avoir
gouvernement. Et en tout cas, sur la loi consommation aujourd'hui, personne n'ira dire que ce que j'ai mis en place n'a pas amélioré la vie des Français.
Vous n'avez pas eu le temps d'en avoir un parce que vous êtes parti. Est-ce que vous auriez. Non, mais c'est sur les universités.
Vous avez raison,
sur la sélection. Oui, vous n'avez pas fait de rentrée scolaire. Tout le monde s'interroge sur ce départ-là. Vous l'avez expliqué à l'époque. Mais sur la sélection à l'université, Thierry Mandon, qui est secrétaire d'État à l'université, a-t-il prononcé un gros mot en parlant de possible sélection, que pour lui, c'était
en master,
une option.
Mais non, en master.
Ce qui serait, d'abord, ça n'est pas un gros mot, parce que je vais vous dire, on a déjà un système éducatif extrêmement sélectif, où ceux qui sont les mieux préparés sont triés très très vite, et dès l'entrée en sixième, on sait vous dire ceux qui sont promis à la réussite scolaire et ceux qui sont promis à l'échec scolaire. En réalité, le mot de sélection, ce qu'on n'avoue pas, ou l'aveu que nous ne faisons pas, c'est que nous avons un des systèmes éducatifs, et qu'on a essayé de corriger, hein, dès Vincent Payon jusqu'à Najat Vallaud-Belkacem, nous avons un système éducatif très sélectif, mais qui trie par l'échec.
C'est le cas en première année à l'université, notamment.
Mais c'est le cas en première année à l'université. Donc, le mot de sélection n'est pas un tabou.
Mais un concours d'accès à l'université, est-ce que vous êtes pour ça ?
Non, mais la question, c'est comment est-ce qu'on sélectionne et comment aujourd'hui, sur quels critères ?
Aujourd'hui, est-ce que ça passe par ça ?
Aujourd'hui, c'est le tirage au sort. Dans les masters, il y a un certain nombre de tirages au sort.
C'est qu'on sait qu'il y a des moyens. Bon,
en fait, on est dans l'hypocrisie.
Oui, je ne suis pas contre un concours pour entrer à l'université, je vous confirme. Je pense qu'il doit y avoir, surtout quand on prépare aujourd'hui des jeunes en filière technologique ou en filière professionnelle à des poursuites d'études. Un mot sur l'enseignement supérieur. Ce qui ne marche pas, c'est que quand vous faites un bac pro, un bac professionnel ou un bac technologique, vous devriez naturellement verser vers un IUT ou vers un BTS. Ou alors, le cas échéant, puisque le bac professionnel prépare à l'insertion directe sur le marché du travail, à un emploi. La réalité aujourd'hui, c'est que ces filières qui ont été imaginées pour poursuivre la poursuite d'études, ces filières aujourd'hui sont peuplées de gens qui n'ont pas un bac techno ou un bac pro, mais un bac général.
Où est-ce qu'il faut faire la sélection alors ?
Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est là où il faut retrouver de la cohérence.
Filtre, coup,
c'est pour ça que tout ne se règle pas à la séance, à la sélection au master 1 ou master 2.
Non, mais,
c'est que je pense que.
Alors,
mais c'est là que j'essaie de donner une cohérence à ce que nous faisons. Je pense que, à nouveau, la question aujourd'hui de l'orientation et de l'organisation de notre système éducatif avant l'université est posée. Et elle est posée dès lors que l'on privilégie ou que l'on anoblit l'enseignement général et qu'au détriment de l'enseignement technologique et l'enseignement professionnel, qu'on ne donne pas assez de moyens à ces deux filières-là de pouvoir valoriser l'excellence qui est celle de préparer un métier ou un diplôme de technicien supérieur ou un diplôme qui vous prépare à un métier dans n'importe quel domaine.
Mais ça fait longtemps qu'on dit ça. Hein.
Non,
ça
mais je sais bien.
Ans,
mais c'est pour ça
personne
que
personne ne dit ce qu'on doit faire, justement.
Si, Christophe Jacubizine, je l'ai dit, mais vous ne l'avez pas retenu, je pense que la question de l'orientation fin de troisième, elle est déterminante. Dans les filières professionnelles où les jeunes ont choisi, tout se passe bien. Là où on est sur la voie de garage, comme on dit, c'est-à-dire qu'on vous met là pour attendre la fin de la scolarité obligatoire. C'est ça...
Benoît,
la rallonger, la scolarité obligatoire aujourd'hui, je comprends l'objectif par rapport si c'est le moyen de rattraper des jeunes qui sont décrocheurs.
Mais
vous
n'y êtes pas favorable.
Non, c'est pas ça. C'est que je considère que c'est pas la priorité.
Alors,
voilà.
Passons à un autre.
Je suis
Il y a
ouvert,
un sujet qui est lié.
Priorité.
C'est vous qui l'avez lié, notamment dans votre discours de candidature, ou alors vous allez nous expliquer si ce n'est pas le cas, qu'il y avait un lien entre les paramètres socio-économiques et le développement de la radicalisation sur notre territoire. C'est-à-dire que l'éducation est un des aspects de cette radicalisation. Ça, on en vient donc à cette question du terrorisme. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, qui l'a dit, hein, que la République, que la France, a aussi fabriqué une partie des jeunes radicalisés ?
Oui, mais pas que. Mais c'est pas la faute à des institutions sociales défaillantes seulement. Je pense qu'il faut sortir d'un double déni. Le premier déni, ce serait de considérer que la radicalisation de certains jeunes qui se revendiquent de l'islam n'a rien à voir avec l'islam wahhabite, par exemple, et avec les mouvements qui se sont développés autour de l'Arabie Saoudite et du fondamentalisme wahhabite. Oui, il y a des liens qui sont des liens évidents, et être dans ce déni-là nous empêche de regarder la réalité en face. Mais il faut ne pas être dans un autre déni, qui serait de considérer qu'aujourd'hui, la République n'a pas failli sur ses promesses essentielles, et notamment les promesses d'égalité. Vous savez, se développe aujourd'hui, dans des quartiers qui sont les quartiers les plus difficiles, une forme d'islam de consolation, où on choisit un islam identitaire, radical, pour consoler ou compenser le fait qu'on n'ait pas trouvé place dans la société.
Ce qui n'exclut rien. Montrer vraiment que 30% des musulmans, notamment les jeunes, estimaient que la charia était supérieure à la loi de la République. Comment vous faites concrètement pour lutter contre ce phénomène-là ?
Bah d'abord, c'est l'éducation, je le redis, c'est l'apprentissage de l'esprit critique, du libre arbitre. Et il faut constater aujourd'hui que les thèses complotistes, conspirationnistes, qui posaient la question aujourd'hui, on parle de jeunes qui se radicalisent avec un islam identitaire, qui devient une identité presque plus importante que tout le reste. Mais les phénomènes d'exclusion réciproque, quand on a 25% de nos électeurs, des électeurs qui veulent voter Front National, il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Nous ne voulons plus vivre ensemble. Nous ne nous supportons plus. Nous nous exaspérons mutuellement. » Donc ces phénomènes d'exclusion réciproque, ils existent. Ce que je veux simplement dire, c'est que oui, interrogeons-nous sur le fait que la République est faillie sur sa promesse.
Et à court terme, on fait comment pour, arriver à vivre ensemble?
C'est là que vous
rendez
compte.
Est-ce qu'il faut forcer l'intégration, comme le dit par exemple la droite, ou est-ce qu'il faut...
Non, l'assimilation, c'est incroyable. Bon, je reviens des États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est pas le modèle. Non, mais c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, au-delà même des États-Unis, nous sommes pas seulement moqués, mais qui ne voit pas qu'il y aura des conséquences économiques considérable à la dégradation de l'image de la France. Comment a-t-on pu passer d'un pays qui, à l'époque de Jacques Chirac, était un des pays les plus populaires dans le monde arabe et la rue arabe, au pays aujourd'hui qui apparaît comme le plus islamophobe de la planète? Comment est-on arrivé là? Mais je vais vous le dire, moi, comment on est arrivé là. Parce qu'il y a des dirigeants politiques, Nicolas Sarkozy en tête, et quelques autres, qui pensent faire leur commerce électoral aujourd'hui de ce type de pulsion qu'on peut avoir. Moi, je trouve, je ne méprise pas l'angoisse identitaire.
L'islamophobie, pour vous, il s'agit d'islamophobie dans le discours.
L'islamophobie, elle est aujourd'hui présente dans le discours politique français.
Y compris chez Manuel Valls, vous avez été très dur sur...
Je n'ai pas la dérive de Manuel Valls sur le sujet du burkini.
Je pense que quand il place la question identitaire. Oui, j'y ai vu une méconnaissance surtout.
Vous avez dit dérive.
Oui, j'y vois une méconnaissance des principes républicains, notamment celui de la laïcité. La laïcité, je le rappelle, organisée par quelques articles, ils ne sont pas nombreux, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme dans la loi 1905, c'est la liberté de croire et de ne pas croire. C'est le fait que l'État reconnaît la République, tous les cultes, mais n'en salarie aucun. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. Ce sont ça les principes. Et quand on dit, je le rappelle, pour le Premier ministre, quand on dit que le port du burkini est une provocation, je pense qu'il n'y a pas de vague de burkini en France. Et je pense aujourd'hui, je vous le dis très simplement, que nous sommes vraiment dans une forme d'hystérie que je trouve quand même. Je vous le demande, je vous regarde dans les yeux, ça vous inquiète pas, vous?
Bien sûr que
qu'il y ait 25% des électeurs qui veulent voter Front National et qu'elle soit sûre d'être au second tour.
Mais ça vous inquiète aussi de savoir qu'il y a 25% selon l'étude d'Institut Montaigne.
Mais les deux sont évidemment liés. Mais non, pardon. Parce que, excusez-moi, sinon il n'y aurait pas Zemmour sur toutes les antennes et payé par quelques grands médias alors qu'il a été condamné deux fois à l'incitation à la haine raciale. C'est pourquoi? Parce que ça fait de l'audience. Et l'audience, ça fait de la recette publicitaire. Donc aujourd'hui, oui, d'accord. Mais donc avoir des propos qui peuvent inciter à la haine raciale, ça rapporte de l'argent. Voilà ce que c'est. Parce que ça fait faire des recettes publicitaires, donc ça fait faire de l'audience. Donc je vous interroge aussi sur vous, votre responsabilité.
Alors, je vous soumets une phrase que vient de prononcer Jean-Luc Mélenchon, qui a jugé aujourd'hui même que le débat sur les ancêtres gaulois, celui-là même que Nicolas Sarkozy a mis sur le tapis à deux reprises cette semaine, il dit... Il n'est pas nul, ce débat. Il permet de réfléchir. Qu'est-ce que vous répondez
pas
à ça?
Pour gagner de l'argent, ça.
Mais non, mais je ne méprise
pas...
C'est
pour pas, faire du
buzz. Je voulais terminer là-dessus. Je ne méprise pas l'angoisse identitaire. Moi, quand une femme ou un homme se sent agressé par une autre femme parce qu'elle porte le voile, évidemment, cette angoisse-là m'interroge et m'interpelle comme responsable politique, autant que le désir d'une femme... par tradition, par foi, de porter le voile.
Mais sur ce que je veux dire, est-ce que c'est un débat nul ou pas sur qui sont les ancêtres des Français? Est-ce que vous trouvez ça dépassé?
Mais il faut toujours relier ça à l'objectif qui est celui de Nicolas Sarkozy. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est essayer de rapatrier le maximum de voiles
extrême droite.
Oui, je ne sais pas, je ne connais pas la
déclaration. Je vous le dis,
c'est le roman national.
Je dis simplement que moi, j'assume défendre le principe d'une république métissée, d'assumer la France non pas d'un projet...
Vous n'êtes pas un peu naïf parce que vous parlez des pays arabes, il y a des pays arabes dans lesquels les femmes nous disent mais résistez parce que sinon nous serons obligés de porter le voile intégral si la France laisse faire.
Non mais là aujourd'hui toutes ces femmes-là, y compris des femmes non voilées, vous disent sur le burkini vous avez fait n'importe quoi.
Certaines disent.
Oui, non, mais l'immense majorité. Ben, mais prenez pas, pas, prenez pas les 2-3 minoritaires qui disent cela. Aujourd'hui, si
le voilà, général, c'est la sûreté.
Non, mais attendez, sur le Burkini, si. Même des intellectuels chose, qui ne sont pas suspects. Écoutez, Caroline Forest, qui a des propos avec lesquels je ne suis pas d'accord sur tout. Mais Caroline Forest, elle a dit en quoi aujourd'hui cette polémique-là, finalement, devait nous détourner de l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est une petite polémique électoraliste. Le but, c'est quoi ? C'est de faire voter des Français sur la peur de l'islam. Et en général,
c'est ça l'objectif de Nicolas Sarkozy pour vous à la primaire de la droite ?
Ah, je pense incontestablement aujourd'hui qu'il fait partie de ces candidats qui organise une parole politique sur la peur de l'islam en général et qui ne rentre pas aujourd'hui dans l'explication qui serait nécessaire sur ces questions-là. Et ça me désole. Mais c'est hélas une réalité.
Est-ce que vous appelez les électeurs de gauche à aller voter à la primaire de la droite?
Non.
Pour voter contre non. Nicolas Sarkozy? Non.
Bon, s'ils le veulent, mais s'ils veulent signer une charte, moi je pense qu'il faut être honnête.
Pour l'alternance,
on va passer aux questions Twitter.
Il faut être honnête. Moi, je souhaite que voilà, je crois au clivage droite-gauche, mais pas un clivage fin, c'est-à-dire fin FEILT, c'est-à-dire qu'on organise, voilà.
Alors, on a plusieurs réactions sur Twitter, et notamment celle-ci. Benoît Hamon utilise de vieilles recettes de socialo basées sur la demande et des prophéties ridicules sur l'environnement. Il fait partie des hommes du passé, nous dit Winston Smith. Vous ne l'avez pas convaincu, notamment sur le revenu universel. Adeline nous dit aussi, c'est acheter la paix sociale.
Votez Donald Trump. Votez
Vous leur dites
Nicolas Sarkozy.
Ça.
Oui, votez Marine Le Pen. Votez pour les climato-sceptiques, votez pour ces gens qui ne voient pas ou qui refusent de voir que les dégâts en matière d'environnement et d'écologie, ce sont d'abord les plus modestes qui le paieront. Qu'il y aura des migrations massives liées au fait qu'on ne peut plus vivre dans certains pays parce qu'il y fera trop chaud. Votez Donald Trump. Et peut-être, si vous avez un peu de chance, il vous donnera un visa pour aller aux États-Unis, ce qui n'est même pas sûr parce que vous êtes français.
Sophie Ponce nous dit, une alliance Hamon-Lindemann-Filoche est-elle possible ? C'est-à-dire, alors je rappelle que Marie-Noël Liman et Gérard Filoche sont candidats. Est-ce que vous faites des appels du pied à deux autres candidats ?
Je respecte leur candidature et je pense qu'ils ont chacune d'entre elles a sa légitimité, son originalité.
Mais ils seront au bout, vous pensez ?
Je ne sais pas. Nous verrons bien, mais je respecte leur démarche à l'un comme à l'autre. Et je vais vous dire, je trouve qu'effectivement, il y a des passerelles qui existent, mais voilà, ils ont choisi d'être candidats, je respecte leur choix.
Sur Emmanuel Macron, juste un mot, puisque hier il était à Lyon. Et certains disent chez les soutiens de Macron que François Hollande organise le fait que ses soutiens s'éloignent de lui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une conspiration élyséenne ? Une
cabale élyséenne.
Écoutez, vu de ma place, je trouve ça assez amusant. Je veux dire, c'est une créature. Emmanuel, il a sa propre intelligence, sa propre histoire, mais c'est une créature politique de ce quinquennat et de François Hollande et Emmanuel Valls. Non, ce que je veux dire,
c'est une bulle qui va se dégonfler.
Non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. J'écoute ce qu'il dit et je trouve que voilà, le débat avec lui est intéressant.
Mais s'il se présente, il fait perdre la gauche ou pas ?
Écoutez, ça dépend s'il est un candidat de gauche. Aujourd'hui, il est sur un registre qui est un registre à l'intersection de la droite et de la gauche. Donc, moi, je crois au clivage droite-gauche.
Comment vous expliquez le succès dans les sondages ?
Mais à raison, justement, du fait qu'une moitié de ses soutiens viennent de la droite et qu'une autre moitié de gauche, plutôt bien portante, disons-le clairement, qu'on recrute plutôt chez les CSP+, a envie de cette transgression-là. Je veux simplement dire
au terme de cette émission, ce
morceau de la droite et ce morceau de la gauche qui se réunissent sont quand même ceux qui vivent le mieux avec le système tel qu'il est. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les invisibles, je l'ai dit. Ceux qui vivent mal au travail. Ce sont les infirmières, les hôtesses de l'air, ce sont les petits retraités, ce sont les étudiants qui vivent mal. C'est le locataire qui, au bout de 5 lettres commandées à son bailleur social, n'a toujours pas de réponse, alors qu'il a aujourd'hui un toit qui est dégradé par un dégât des eaux. Je veux dire, parler de ça, c'est ça.
On arrive au terme de cette émission.
Les Français, ils ont le droit de vote, mais ils n'ont plus de voix. Ils n'ont plus de voix. Ils ne sont plus entendus au moment où ils votent. C'est ça qu'il faut rétablir dans la démocratie française. Si on ne leur redonne pas de la voix, c'est-à-dire si on ne fait pas en sorte que le bulletin de vote puisse changer les choses, nous aurons à la fin une catastrophe démocratique.
Juste un mot, est-ce que vous êtes pour les voies sur berge fermées à Paris ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo là-dessus ? Aujourd'hui, c'est journée sans voiture à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Mais la journée. Oui, je suis d'accord.
C'est l'écologie punitive ou pas ?
Non, ce n'est pas de l'écologie. Il n'y a pas d'écologie punitive. Dès lors qu'aujourd'hui, on se préoccupe non seulement de l'air qu'on respire, et des tout petits, je vous rappelle que ceux qui souffrent le plus des gaz d'échappement,
ce sont les
enfants parce qu'ils sont...
Donc les voies sur berge, il faut les fermer.
Oui, je pense que c'est une évolution naturelle pour une grande ville comme Paris qui a le souci de participer à la transition écologique.
Merci beaucoup Benoît Hamon, merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. Eh bien, on se retrouve très bientôt. Bon dimanche à tous, et bon après-midi et à bientôt. Merci Benoît Hamon.